Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse ? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode !
Les couilles sur la table, épisode 41. Deuxième partie du cours particulier avec le philosophe et penseur Paul B. Pressel. Dans la conversation que vous allez entendre, nous allons notamment discuter des liens entre la destruction de la planète et le patriarcat. Nous allons discuter de la masculinité comme usage légitime de la violence, de comment est-ce qu'on peut faire pour lutter pour que tous les corps vivants soient reconnus dans leur souveraineté. Dans la première partie de cette conversation, nous avons vu comment nos institutions produisent de la différence binaire. D'un côté, le féminin, de l'autre, le masculin. Paul B. Preciado est un homme trans et il a beaucoup écrit sur cette expérience. Ainsi, dans l'une de ses chroniques, publiée dans Un appartement sur Uranus, il raconte à quel point il est compliqué aujourd'hui encore de changer d'état civil. Lui, par exemple, il voulait que son nom soit changé sur ses papiers d'identité, de Béatrice Preciado à Paul B. Preciado. Anecdote révélatrice, le juge qui a finalement accepté sa demande lui a donné une grande tape dans le dos en lui disant « Bravo, vous êtes très réussi ».
Devenir trans au regard du système médical, de la science et du système juridique, c'est passer en fait un examen de masculinité. C'est là qu'on comprend, on commence à comprendre pas mal de choses, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire socialement être un homme ? Parce qu'effectivement, il faut être clair, accéder à la masculinité dans notre société et tout simplement monter dans l'échelon social et politique. Donc effectivement, évidemment, c'est normal, entre guillemets, que ça soit vraiment... médicalisé, pathologisé, qu'il soit vraiment qu'il y a presque comme un processus punitif qui se met en place, parce qu'on ne pourrait pas non plus accepter de manière généralisée qu'il y ait tout et n'importe qui, en fait, qu'il y ait toute personne assignée femme à la naissance. Si toutes les femmes, au-delà de leur désir, au-delà de leur corps, si toutes les femmes disaient « Mais non, mais attendez, mais on gagne moins en tant que femme, on est soumise en fait à un certain nombre effectivement de violences, des formes systématiques de violences », il faut insister. C'est-à-dire que moi, je veux bien en fait qu'on continue à se dire femme, etc., mais qu'est-ce que ça veut dire en fait aujourd'hui être femme dans une société dans laquelle la masculinité est encore définie comme l'usage légitime de la violence et donc évidemment dans laquelle les femmes sont l'objet de cette violence. Donc moi je pense qu'il faudrait un mouvement mais très, pour le coup en fait, très 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 dur, un féminisme beaucoup plus radical, parce qu'en fait c'est mon expérience aussi en tant qu'étrange, c'est-à-dire j'étais très radical quand j'étais lesbienne, mais néanmoins j'ai habité dans la boule en fait, dans une société queer très lesbienne radicale, et donc radicale, je dis radicale dans le sens esthétique, on était esthétiquement radical, mais politiquement, on faisait ce qu'on pouvait. À ce moment-là, j'avais une image on va dire, très critique de l'hétérosexualité patriarcale, mais en même temps très lointaine. Enfin,
oui, vous n'étiez pas directement confrontée.
Non, exact.
Et maintenant ?
Enfin, si, j'étais confrontée à la lesbophobie, j'étais confrontée à la violence, mais quelque part, en fait, je vivais en fait, à l'intérieur d'un monde lesbien, et donc, du coup, j'étais protégée par cette, on va dire, en fait, comme une espèce de, si vous voulez, des ghettos, des survivances, en fait, des résistances, qui étaient vraiment pour moi importantes et intéressantes. Mais le problème, c'est que quand vous commencez cette traversée et que du coup, bon, voilà, votre corps change et bon, voilà, vous voyez, ploum, de l'autre côté de la frontière, maintenant, t'es un homme, ah bah, bonjour.
C'est-à-dire que les gens vous disent bonjour, monsieur.
Voilà, et maintenant, je me retrouve, je suis souvent confronté à des conversations qui sont inimaginables.
Bah, ça me fait penser à ce que nous racontait Viken, qui est un homme trans, il est venu dans le 12e épisode des Couilles sur la table,
oui.
Et il nous disait que depuis qu'il était reconnu comme un homme dans le monde des hommes, etc., il entendait des conversations, mais que même dans ses pires cauchemars, il n'aurait pas imaginé en fait,
conversations dans les vestiaires
du club de gym, ou d'un chauffeur de taxi et tout. Vous aussi, vous avez fait la même expérience.
Bien sûr que
j'ai
fait la même expérience. Mais souvent les hommes, en fait, ils vont parler de la sexualité des femmes en disant, voilà, celle-ci, je l'ai baissée, elle est vraiment une salope. Elle était la première soir, on a pu la baisser, hein, mais là, tu peux l'appeler, tu verras. Enfin, la manière dans laquelle, ou bien, en fait, parfois, les hommes cis, hétéros, en fait, ils parlent souvent des femmes, ça m'a fait beaucoup rigoler en fait, comme si les femmes étaient vraiment des êtres, mais vraiment totalement étranges. Ouais. Voilà, comme si c'était vraiment des. Parfois ils disent, ouais, parce que tu sais, les femmes, là, ouais. Jusqu'au moment parfois où j'ai dit, non mais attendez, les gars, on va tout arrêter là, hein, parce que moi j'étais une femme jusqu'à pas très longtemps et tout ce que vous dites en fait c'est n'importe quoi. Et...
Oui, mais... comme si c'était une espèce, encore une fois, oui, différente,
mais,
quoi,
mais
des créatures
sûr,
radicalement différentes
façon,
et tout.
Mais de toute façon, mais c'est ça que cette épistémologie de la différence sexuelle a produit.
Ça crée aussi.
Qu'effectivement, en fait, pour les hommes, soyons clairs, les hommes sont encore les seuls sujets politiques à être reconnus en tant que souverains de manière totale par nos régimes politiques hétéropatriarcales. C'est comme ça. Et en fait, les femmes sont encore dans une position subalterne. C'est pour ça, en fait, que justement, il y a ces renouveaux du féminisme aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, que il faut. Les gens se disent, en fait, parfois, ça me fait rigoler, en fait, quand il y a des gens qui disent non, mais maintenant, en fait, on n'a plus besoin du féminisme. Mais attendez, mais. Bien au contraire, c'est plus que jamais, puisque en fait les conditions dans lesquelles se trouvent les femmes, justement dans des sociétés apparemment démocratiques, sont terrifiantes. Si on pense en fait qu'il y a encore des femmes de manière quotidienne qui se font tuer parce qu'elles sont femmes, pas par des autres raisons, mais parce qu'elles sont femmes. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait dire...
Donc des féminicides qui ont lieu tous les jours.
Ouais, ce qu'il faudrait, c'est quoi si... Enfin, je vais être très radical, mais il faudrait interdire la masculinité. Et là, vous direz en fait, justement, parce que la masculinité, en tant que, c'est-à-dire cette définition de la masculinité souveraine par l'usage légitime de la violence, y compris sur les femmes, sur les personnes non blanches, sur les animaux, etc., sur les enfants, elle est nécropolitique et délétère. Et donc, voilà, il faut finir avec ces régimes politiques.
Il faut en finir avec la
ouais.
masculinité.
Après, c'est pour ça, en fait, que je vous dis aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport au corps féminin avec utérus, moi aussi, je suis un sujet paradoxal. Parce que, évidemment, j'ai changé de sexe, soi-disant. Enfin, en tout cas, mes papiers, ils disent que j'ai changé de sexe. Et maintenant, je me retrouve dans cet endroit de la masculinité, alors que je suis très critique par rapport à la masculinité normative.
Donc ça vous donne un point de vue...
En tout cas, c'est sûr que ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe, c'est justement traverser ces positions, être dans cette position-là. Je pense qu'il n'y a pas une autre position plus intéressante. Chaque corps, en fait, pourrait trouver une position extrêmement intéressante dans laquelle c'est situé. Mais pour moi, c'était celle-ci, ouais.
Il y a un symptôme de ce binarisme et aussi de la domination masculine qui est la transphobie, qui existe, donc on l'a vu, à un niveau étatique, mais qui évidemment existe aussi dans tout le corps social et dans la vie quotidienne, etc. Et là, je pense à l'agression de Julia, qui a eu lieu en mars dernier. Donc Julia, c'est une femme transgenre. Elle a été insultée, frappée, giflée dans la rue. Elle s'apprêtait à prendre le métro, en plus symboliquement place de la République, au cœur de Paris. Et donc elle traverse la foule, qui est en majorité masculine. Et là, il y a plusieurs individus qui l'agressent. Je vous propose qu'on écoute un extrait de son récit.
Il faut savoir que sur la vidéo, il n'y a qu'une partie de l'agression qui a été filmée. L'individu individu que vous voyez sur la vidéo qui m'ébriffe les cheveux, juste avant ça, m'a mis une gifle. Un autre individu a sorti son sexe devant moi en rigolant, en le secouant, en me demandant de le satisfaire. J'ai regardé un de mes agresseurs en lui disant qu'il ne me faisait absolument pas peur et je pense que c'est ce qui a provoqué sa réaction très violente par la suite. Ça fait partie malheureusement un petit peu du quotidien des personnes transgenres.
En fait, en écoutant ça, bon, évidemment, on est horrifié en plus quand on voit les images de cette agression et tout, mais en même temps aussi de comment ils font ça. C'est-à-dire, donc, il la gifle, il la frappe et ils lui disent « Non, mais en fait, toi, t'es un homme, etc. » Et il sort son sexe en rigolant et tout. Et je me dis « Mais de quoi c'est le symptôme, ça ? C'est quoi cette panique ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens se révèlent tellement agressifs que ça les rend fous furieux, en fait, quand ils sont confrontés à ça ?» C'est peut-être un peu naïf comme question, mais ça revient aussi tout le temps dans mes émissions. Je m'interroge vraiment sur le sens de la violence, quoi. Qu'est-ce que c'est ?
Bah, justement, en fait, d'une part, je pense que là, ça montre bien, justement, quand je parlais tout à l'heure, en fait, de ces définitions de la masculinité souveraine par rapport à l'usage légitime de la violence. C'est que là, justement, des hommes, apparemment des hommes cis, en fait, se sont confrontés. Il voit quelqu'un qui peut traverser justement cette frontière du genre et des coups, en fait, ils rentrent dans une affirmation identitaire de la masculinité. Et ce qu'on voit là, justement, c'est un mouvement masculiniste identitaire. Et
donc comment... je sors mon pénis, je voilà, secoue comment, et je
exactement.
Te dis satisfais-moi
pas. Et je sors mon pénis, ça veut bien dire en fait justement je vais montrer cet objet-là qui est considéré par la médecine comme les lieux d'incarnation de la masculinité, mais aussi ça veut dire en fait qu'ils sont en train de prendre la personne trans pour une prostituée, pour une travailleuse de sexe. Et donc du coup, ce qui arrive très souvent, c'est que justement et surtout dans les sens en fait des trans qui vont vers la féminité elle est hypersexualisée. La redéfinition de la masculinité souveraine par rapport à l'usage, cet usage de la violence, c'est fait pas uniquement par la violence, par n'importe quel type de violence, c'est aussi par la violence sexuelle. Et donc là, on voit très bien aussi l'importance du viol. C'est-à-dire que les viols ne pas, c'est un peu comme arrive avec la transsexualité, c'est-à-dire que les viols, c'est pas du tout en fait une exception, mais c'est la technique fondamentale des sexualisations. C'est que en fait, pour produire la féminité en tant que féminité et la masculinité en tant que masculinité, les viols, c'est le meilleur instrument. Puisqu'en fait, c'est à travers la transformation de la sexualité en violence, et notamment de l'hétérosexualité en violence. Je sais que c'est dur, mais c'est notre histoire. On a cette histoire. Et moi, je pense qu'il faut aussi... Moi, ce que j'attends aussi, c'est pas uniquement en fait, un mouvement des hommes de s'identifier. Il n'y a pas uniquement MeToo des côtés des femmes, mais qu'il y a aussi un mouvement des hommes qui disent « Je ne veux plus m'identifier en tant qu'homme par l'usage légitime de la violence. Je veux une autre définition de la masculinité. » Et donc voilà, un mouvement des désidentifications, pas identitaires comme celui-là qu'on a écouté en fait dans l'agression à Julia, mais en fait un mouvement des désidentifications par rapport à la masculinité souveraine et des désidentifications par rapport à l'hétérosexualité.
Vous rappelez ce régime-là d'hétérosexualité. Donc vous dites avec Monique Wittig, qui a écrit ça aussi dans les années 70, que l'hétérosexualité, c'est pas seulement une histoire de désir, mais c'est un régime politique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, Monique Wittig, c'est quelqu'un de très important, en fait. Elle a été très importante pour nous toutes, en fait, qu'on en était justement dans les années 90, en fait, pour le féminisme queer, alors qu'elle était très peu lue en France, elle a été très, très lue aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis, et c'est aux États-Unis dans les années 80, où elle a écrit « Et les lesbiennes ne sont pas des femmes », un texte très important, un corps sur la désidentification. Et aussi, en fait, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'elle a dit, c'est l'hétérosexualité, c'est pas une pratique sexuelle. C'est donc quand je vous demande, en fait, est-ce que vous êtes hétérosexuel, c'est pas, je ne parle pas du tout, qu'est-ce que vous faites au lit, avec qui vous couchez, comment, non, c'est pas ça, en fait. L'hétérosexualité, c'est un régime politique. Donc, pour le coup, c'est la même chose, c'est une épistémologie. C'est un régime des savoirs. Une fois que vous vous définissez en tant qu'hétérosexuel, à partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble, en fait, des chorégraphies sociales et politiques qui se mettent en marche. Mais en réalité...
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Par exemple, en fait... Est-ce qu'on peut être hétérosexuel ? Est-ce qu'on peut être une femme hétérosexuelle et être justement extrêmement masculine ? Bien, dans les régimes de l'hétérosexualité tels qu'on les connaît, bah, pas tellement, puisqu'en fait, vous allez être censuré.
Ou considéré comme pas désirable ou
exactement.
Pas, pour reprendre les mots de Virginie Despentes, comme exclu du marché à la bonne meuf.
De la bonne meuf, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Donc, des coups, si vous voulez, c'est les désirs en lui-même, en fait, qui est construit par un régime politique. À partir du moment en fait, où on a fait une taxonomie des corps encore masculins et féminins, et qu'en fait, on a pensé que tout rapport entre les corps était justement voué à la reproduction sexuelle, bah oui, à partir de ce moment-là, bah, y a la possibilité d'un rapport entre des hommes et des femmes. Mais en réalité...
Et encore une fois, c'est vu comme naturel, comme naturalisé, puisque visant la reproduction,
bah oui,
etc.
Mais oui, mais aucun acte de reproduction n'est naturel. C'est-à-dire que, y compris, en fait, tomber enceinte, accoucher, etc., c'est les conséquences d'une certaine chorégraphie politique. C'est-à-dire qu'aucune femme... Pour appeler femme, est-ce que la société binaire appelle femme, c'est-à-dire aucun corps doté d'un utérus est maternel par lui-même, en dehors d'une relation. Et cette relation ne doit pas forcément passer par l'hétérosexualité.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette domination là dont on parle, domination du régime hétéronormatif, du patriarcat, et la destruction écologique telle qu'on est, la catastrophe écologique telle qu'on la connaît actuellement?
Je pense qu'il y a un lien très important, parce qu'en fait, pour moi, même au-delà de la masculinité, la question c'est comment on définit la souveraineté. Et la souveraineté n'est pas le pouvoir en soi, hein, c'est la puissance. Mais cette puissance, en fait, vient justement, comment est-ce qu'on la définit? Est-ce qu'on la définit par rapport, en fait, aux soins? Par rapport, est-ce que, par exemple, est-ce qu'on considère qu'un corps vulnérable est un corps souverain? Ou est-ce qu'on considère qu'uniquement un corps qui utilise des techniques de pouvoir et des techniques de violence est un corps souverain? Donc, comment on a défini historiquement dans ces régimes que moi, avec Foucault et avec Achille Nembe, j'appelle nécropolitiques, c'est-à-dire la forme des gouvernements la plus historiquement la plus répandue en fait dans la planète, malheureusement, y compris en fait dans les régimes apparemment non capitalistes, donc dans le communisme aussi. Comme on a pensé la souveraineté uniquement en rapport à l'usage des techniques de la violence, effectivement, notre rapport, y compris avec la planète, est un rapport de violence et donc des exploitations, des expropriations et des exterminations. Moi, je pense qu'on est dans un moment absolument crucial. Hein, et c'est pour ça que pour moi, je n'aime pas me dire, en fait, philosophe du genre, en fait, même si, j'ai commencé par faire ça, mais...
Oui, mais vous réfléchissez à plein d'autres objets et vous faites du lien, encore une fois, entre tous les corps vivants, en fait.
Oui, mais je dis ça, en fait, c'est parce qu'en fait, ils finissent par, quand on est féministe ou transféministe, ils vous disent, finalement, occupe-toi un peu des femmes, des trans et tout, et la vraie politique, non, on continue à la faire nous, en fait. Mais le problème, c'est que soi-disant, les gens qui sont occupés de la vraie politique, la seule chose qui les a intéressés jusqu'à maintenant, c'est la production. C'est la production. Et la production, précisément, pensée en tant que expropriation totale des ressources de la planète. Mais il va bien falloir redéfinir qu'est-ce que ça veut dire, en fait, vivre sur cette planète et donc inventer des techniques, des productions, des souverainetés qui ne soient pas nécropolitiques, qui ne soient pas définies par l'usage de la violence. Et ça, on ne sait pas encore grand-chose. Parce que, y compris dans les régimes communistes, par exemple, les modèles des subjectivités est un modèle de virilité ultra puissante. Mais par contre, comment serait en fait une politique de la terre, une politique terrienne, comme on dit dans la Holloway au Bruno Latour, qu'est-ce que serait cette politique si on place au centre de cette politique les corps vivants vulnérables et pas du tout en fait les corps virils ultra puissants?
Il y a maintenant plusieurs questions que j'aimerais vous soumettre, plusieurs remarques que je me suis posées à la lecture de vos travaux. Donc moi, j'ai aucune certitude sur ces sujets-là. Mais en fait, j'ai toujours peur que les idées les plus novatrices et les plus révolutionnaires, elles soient récupérées, elles soient retournées contre nous, par les pensées réactionnaires. Et donc, j'aimerais qu'on imagine comment est-ce qu'on va contrer ces arguments-là. Par exemple, ce que vous écrivez sur la testostérone,
oui.
Parce que dans Testo Junkie, c'est un essai où vous racontez les effets que ça a sur vous, la testostérone. Donc au début, vous appliquez, vous administrez des dosages qui sont sous l'effet seuil, c'est-à-dire que ça ne va pas déclencher la production de caractères sexuels secondaires comme la pilosité, le changement de masse musculaire, etc., le changement de votre voix. Mais vous reconnaissez que ça a des effets sur comment vous vous sentez, votre personnalité,
totalement.
Vos émotions et tout. Et à la fois, un argument qui est très souvent utilisé pour justifier une masculinité qui serait plus violente, plus agressive et tout, c'est de dire « Ah oui, mais... »
La testostérone.
Mais la testostérone, mais elle est pauvre, ils y peuvent rien, quoi. Franchement, ouais. Les cerveaux des hommes et les cerveaux des femmes, c'est différent, leur corps, c'est différent, et compagnie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ça?
Oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un des problèmes, justement, des constructivismes féministes. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler du genre comme une construction sociale et culturelle, on ne savait pas quoi faire avec les corps. Du coup, oui, les représentations de genre, on travaillait ça à fond, mais la question, c'est mais les corps, qu'est-ce qui se passe avec les corps? Et en fait, il y a une matérialité du genre. Et donc, évidemment que la testostérone produit des effets. Mais est-ce que ces effets sont la masculinité? Absolument pas. Est-ce que la testostérone est masculine? Non. D'ailleurs, en fait, tous les corps
produisent de la testostérone
ouais. dans des quantités différentes. Et même, ce qui est assez drôle, en fait, si vous voulez, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur Testo Junkies, j'ai fait une espèce de généalogie politique de la testostérone. Je me suis intéressé à comment elle avait été découverte ou inventée par
le
discours.
Oui, c'est dans l'urine des juments et tout ça.
Oui.
Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont nous dire « Ah, hein, bah, alors, vous voyez que la testostérone, ça rend plus agressif et tout. »
Non, je voulais vous dire, c'est que, justement, qu'en fait, cette étude, une des choses que j'avais appris qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'en fait, pour les médecins américains, pour les systèmes médicaux américains, il y a aujourd'hui une nouvelle épidémie en Amérique qui est un manque important de testostérone chez les hommes américains. Et du coup, en fait, il y a de plus en plus des thérapies, des substitutions en testostérone qui sont appliquées aux hommes, parce qu'on considère que justement les hommes américains sont quelque part déficitaires en masculinité. Et donc, c'est ce qui commence à être très intéressant, si vous voulez, c'est si on commence à se dire, c'est la même chose avec notre corps. Est-ce que l'utérus est féminin? Est-ce que la féminité, c'est l'utérus? Est-ce que le pénis est un organe masculin? Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que les processus de production de la différence de genre, les processus politiques, donc cette anatomie politique, elle fabrique un corps. Elle va sexualiser les corps et la biologie, en fait. Et du coup, on va dire, voilà, bah, la testostérone, c'est la masculinité. Mais en fait, il y a beaucoup d'hommes qui produisent un peu de testostérone, certains qui produisent plus de testostérone et d'autres beaucoup de testostérone. Et il n'y a pas, en fait, une relation des causes à effet entre ce qu'on appelle la masculinité. De toute façon, la masculinité n'existe pas en dehors d'un régime politique. Et donc, la masculinité, quand un bébé est né et vient au monde, en fait, il n'y a pas du tout, il y a très peu de testostérone sur ce bébé.
Donc, sauf qu'on va déjà commencer à dire « Ah, mais regarde, il est colérique,
exactement.
C'est un vrai petit garçon, etc.
D'ailleurs,
c'est un vrai petit mec. »
Tout à fait. Et même après, il y a beaucoup de filles, par exemple, qui, lors de la puberté, ils vont avoir, en fait, une poussée de testostérone importante et ils vont être immédiatement traités, en fait, avec des estrogènes ou avec l'androcure, donc avec vraiment, pour le coup, en fait, la substance pharmaceutique pharmacologiques qu'on donne aux femmes transsexuelles pour justement contrer les effets, soi-disant, de la testostérone, parce que sinon elles seront virilisées. Donc la question, c'est qu'en fait, la vie, les corps vivants sont dans une multiplicité radicale qu'on ne peut pas réduire à la masculinité et la féminité. Parce que ça, c'est uniquement penser dans cette idée, établir un rapport des causes à effet et un rapport immédiat et un lien comme ça unidirectionnel entre sexe et reproduction. Et donc sexe hétérosexuel et reproduction. Mais on sait qu'à partir des années 70-80, avec l'utilisation pharmacologique massive des pilules anticonceptives, bah, aujourd'hui, sexe n'égale pas exactement reproduction. Donc peut-être, en fait, ce qu'on appelait dans le 19e l'hétérosexualité, bah, peut-être elle n'existait plus. En fait, en réalité, ce qu'il y en a, c'est une hétérosexualité, ce que j'appelle pharmacopornographique, mais pas du tout l'hétérosexualité telle qu'on l'a imaginée.
Un autre argument, une question que je me pose. Moi aussi, je trouve que c'est souhaitable un monde où ça n'aurait absolument plus aucune importance politique, ni l'apparence de nos corps, ni où le genre n'a même pas de pertinence, ou la forme de nos organes génitaux, etc. À la fois, je me dis, comment est-ce qu'on fait pour continuer à mener des combats politiques si on dit que toutes ces catégories-là, ce sont des fictions, quoi. Je me dis, comme les catégories femmes, hommes, homosexuels, hétérosexuels et tout, ça n'existe pas.
Non, c'est pas qu'elles n'existaient pas.
Ça existe.
Attention.
Voilà, c'est OK.
Attention. On ne dit pas du tout qu'elles n'existaient pas. Elles existent même, en fait, elles sont, si vous voulez, en fait, ils sont une matérialité biopolitique. C'est-à-dire qu'elles existent, y compris dans les corps.
OK.
Et qu'elles existent comme un système de reconnaissance scientifiques et politiques, et donc elles sont réelles. Mm-hmm. Mais quand on dit qu'elles sont des fictions politiques, on dit qu'elles ont été fabriquées tout au long de l'histoire. La question, c'est que précisément parce qu'elles ont été fabriquées et qu'elles produisent beaucoup d'inégalités
et
beaucoup
de
violences.
En fait, ça a des effets très très concrets, très matériels.
Exactement, très
tout.
Matériels, mais ouais. Ces effets, en fait, souvent, les résultats de ces effets, de ces relations, en fait, c'est vraiment des pouvoirs. C'est l'établissement d'un régime des pouvoirs. Donc si on veut lutter contre ce régime des pouvoirs, il va falloir quelque part, en fait, si vous voulez, défaire cette fiction politique et construire des nouvelles fictions politiques collectivement. La question, c'est pas en fait dire, bon voilà, il y aura plus de tout, des genres. Bon, peut-être que la question, c'est dire, bon, bah, et qu'est-ce qui se passe en fait si au lieu de penser à un système binaire en termes des genres, si on s'est dit en fait qu'il y a 10, 15 genres, comment ça changerait les réels? Comment seront les institutions éducatives pour un système qui a 10 genres? Comment seront en fait les institutions, qu'est-ce qu'on ferait de la prison, de l'hôpital, de l'institution psychiatrique?
De l'Assemblée nationale.
Et l'Assemblée nationale, de l'idée en fait des quotas, de l'idée. Voilà.
Donc on peut faire les deux ensemble, quoi. Mais
il faut de toute façon absolument faire les deux ensemble. La question, en fait, c'est qu'il faudrait, si vous voulez, pour moi, j'appelle à une alliance transversale des luttes somatopolitiques. C'est-à-dire, ne pas mettre au centre les femmes pour le féminisme, les noirs pour la lutte des noirs, les handicapés pour l'handicap, mais plutôt dire, en fait, pensons à notre statut des corps vivants à tous et on va établir des alliances transversales des corps dissidents.
De tous ceux qui ne sont pas reconnus comme étant des citoyens à part entière.
Exactement, exactement. Et donc, une lutte dans laquelle, en fait, on va plutôt penser aux relations et aux alliances qu'aux replis identitaires, en fait, de chaque identité.
Bon, mais parfait. Je trouve que ça répond très bien à la critique que j'ai entendue aussi dans les milieux féministes contre le féminisme queer, qui disait, mais OK, si on abolit les étiquettes, ça abolit pas le problème, en fait.
Non, c'est... mais c'est pas...
Est-ce que, quand mais personne je parle... ne dit vraiment
non,
ça,
Non, quand
en
je
réalité.
Parle des... Non, parce que pour moi, en fait, c'est même pas des étiquettes, en fait. Pour moi, c'est un ensemble de techniques de normalisation. C'est pas du tout, en fait, la masculinité et la féminité, c'est pas des étiquettes. C'est-à-dire, sont des techniques d'inscription du genre. Et ces techniques, ils vont des systèmes de reconnaissance à la naissance, ils vont à chaque fois que vous mettez les pieds dans une institution, il y a un acte de reconnaissance et à partir de là, un ensemble de techniques que ça met en place. Donc ce qu'il faut faire, c'est des contre-technologies des pouvoirs, inventer des autres techniques. On ne peut pas dire simplement, bah voilà, on défait tous les genres et après, bah non, on va inventer peut-être justement ce que j'appelle en fait des techniques de subjectivation dissidente. C'est-à-dire, en fait, résister à cette technique normalisante. Je pense, en fait, la question, c'est que peut-être, c'est pour ça que je fais appel à la science-fiction, que j'aime tellement la littérature,
oui, parce que
la
fiction. C'est tellement dans le futur et tout. Pour l'instant, c'est difficile à imaginer.
C'est pas
mais...
que c'est tellement dans le futur. Ah. C'est totalement
okay.
là. C'est là que ça se passe. Pour moi, en fait, ça, c'est très important. Il faut affirmer qu'il y a une révolution maintenant. C'est là que ça se passe. On est en train de vivre une grande révolution planétaire, une révolution, un changement de paradigme total, et c'est là que ça se passe. Je pense qu'on est en train de vivre un des moments historiques les plus complexes et les plus fascinants de l'histoire. Et donc, c'est pas pour demain. Par contre, il faut faire appel à l'utopie, à l'imaginaire. Il faut faire appel, justement, à la fiction.
Aux artistes, aux écrivains.
Exactement. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument arriver à défaire les carcans de cette épistémologie normative.
Il y a une des attitudes, parce que je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur l'histoire de se désidentifier, quand on est un homme, de dire « mais moi, je ne veux plus en fait, appartenir à ça, mais est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça fonctionne ?» Je pense par exemple, je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode-là, ça me laisse un peu perplexe, c'est pour ça que je vais vous demander votre avis là-dessus. C'est la question de la non-binarité, des gens qui se disent non-binaires. Oui. Donc là, il y a un sondage qui est paru, qui a été fait par le magazine L'Obs, qui dit qu'il y a 14% des gens en France de 18 à 44 ans qui se définissent comme non-binaires. Et il y a eu une scène, un dialogue qui a été tourné en dérision sur Twitter, beaucoup. C'était dans l'émission Arrêt sur image. Donc, il y avait quatre invités. Et parmi ces invités, il y a une personne donc, qui s'appelle Arnaud Gauthier-Favas, qui est administrateur de l'Inter LGBT, qui organise la Marche des Fiertés. Et lui, il était très, très mécontent parce que l'un des deux présentateurs disait « mais il n'y a que des hommes sur ce plateau ». Donc, je précise, parce que c'était une vidéo, donc l'apparence de cette personne, elle a une barbe, un début de calvitie, la peau claire, un pull, etc. Et voilà ce qu'il dit au présentateur.
Non mais moi, je suis ici, moi, non mais attendez, les vieux réflexes sexistes...
Je ne suis pas un homme, monsieur.
Vous n'êtes pas un homme, pardon.
Ah non, 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
Votre apparence ?
Ah bon ? Ah bah, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir.
Alors, expliquez-moi.
Non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin,
comment
et je refuse qu'on me genre comme un homme.
Comment vous définissez-vous ?
Comme non-binaire.
Comme non-binaire ?
Oui.
Et il lui dit, c'est me mégenrer, c'est vraiment désagréable, etc. Et un peu plus tard dans la conversation, le présentateur dit, bon, et tout le monde est blanc sur ce plateau. Et pareil, la même personne réagit et dit, non, mais je ne suis pas blanc. Donc, d'accord, il s'est défini comme non-binaire, etc. Mais je me demande de comment cet outil-là, ça peut être complètement retourné, en fait. Parce qu'il dit ça, mais à la fois, on s'est dit, bah, vu son apparence et tout, il bénéficie quand même de tous les privilèges qui vont avec son apparence.
Bah, bénéficier de tous les privilèges voudrait dire, en fait, qu'il s'était totalement, en fait. C'est-à-dire que les privilèges, souvent, c'est être vraiment... dans les lieux de l'universalité. Justement, ne pas être visible en tant qu'autre, ne pas être altérissé. Donc, à partir du moment où constamment, imaginez en fait que constamment, tous les jours, lui, il dit, ou elle dit, ou la personne non-binaire dit, bah non, moi, je ne suis pas un homme, moi, je ne suis pas blanc, bah, du coup, quelque part, il est en train de troubler les systèmes de reconnaissance. Effectivement, il a, par contre, ou elle ou l'autre, en fait, a la possibilité de se situer soit dans la position normative, soit ailleurs, alors que, par exemple, pour une personne qui est racialisée à cause de la couleur de sa peau, cette personne n'a pas les choix, est racialisée tous les jours, et donc, des coups, effectivement, est dans un rapport extrêmement...
Donc, plus contrôlé par la police, il se voit refuser des emplois ou un logement, etc.
Mais imaginez, moi, je trouve que ça peut être une stratégie intéressante, parce que imaginez, en fait, que toutes les personnes qui, soi-disant, ont la peau claire, commençaient par dire « non, non, mais moi, je ne suis pas blanc ». Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en permanence ? Donc, je pense que, pour moi, la question, c'est pas... C'est si cette énonciation... elle est accompagnée de tout un ensemble de pratiques de résistance. Si c'est quelqu'un, effectivement, si une personne, c'est pas absolument hétérocentrée, voilà, qui va dire « moi, je suis pas blanc, je suis pas... Enfin, » Souvent, on entend ça qu'en avant, on entendait parler de l'humanisme, et la personne te
dit... C'est ça, c'est-à-dire la personne dit « mais pourquoi t'arrêtes pas à me dire que je suis blanc, je suis pas blanc, je suis un être humain,
ouais.
et je suis un citoyen du monde, et je suis un humaniste, et tout. » Et c'est aussi un truc qu'on entend, que moi, j'ai entendu, j'ai reçu des courriers comme ça aussi, ou même dans les conversations d'hommes hommes cisgenres, hétéros, qui vont me dire « Mais c'est tellement violent, pourquoi t'arrêtes pas de me dire que je fais partie du groupe des hommes qui bénéficient des effets du viol, etc. C'est pas vrai, j'en fais pas partie. » Et donc je me dis, comment est-ce qu'on fait pour se désidentifier, comme ce que vous proposiez tout à l'heure, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il suffit de le dire pour que ça arrive?
Ouais, non, mais je pense que parfois la désidentification passe par la reconnaissance de sa position de pouvoir. C'est-à-dire que parfois, il faut dire, moi par exemple, j'étais très conscient que malgré le fait que j'avais un passeport dans lequel, je n'étais pas reconnu en tant qu'homme alors que mon corps était en train de changer, néanmoins c'était quand même un passeport européen. Donc je voyais bien en fait qu'il y avait certains de mes amis qui ne passaient pas et moi je passais. Donc il y avait un privilège. Donc je ne peux pas dire, non, je ne suis pas européen. Écoute, j'ai un passeport qui me donne un certain nombre de privilèges. Et donc du coup, la question c'est, peut-être il faudrait commencer justement par reconnaître ces privilèges-là, pour se dire, comme vous avez commencé tout à l'heure, mais je pense que les seuls problèmes de ça, si vous voulez, c'est que des coups, en fait, cette taxonomie devient une évidence. C'est-à-dire que si vous commencez, comme aujourd'hui, vous m'avez dit, en fait, je suis une femme, cis femme,
Oui.
Vous m'avez dit...
Hétéro, j'ai même commencé l'émission,
le début du podcast,
je suis une classe bourgeoise, je suis blanche, européenne, etc. Bon, je reconnais ça, mais ça veut pas dire que je suis ça comme identité, mais...
Oui, je comprends, mais la question, et moi, je trouve que c'est tout... à votre honneur, et c'est très bien. Mais la question, c'est que aussi, à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à douter de cette position-là? C'est-à-dire que peut-être, en fait, peut-être vous n'êtes pas aussi hétéro que vous imaginez.
Ouais,
peut-être vous n'êtes pas... Et si demain, vous savez, c'est pas... Si vous commencez, en fait, à trop traîner avec moi et qu'il y a trop de testostérone autour et que vous dites, écoute, je vais bien en prendre un peu, mais... C'est-à-dire,
oui, c'est ce que vous racontez aussi dans Testo Junkie et dans les chroniques. En plus, il y a bien marqué sur les notices, genre surtout...
Ne s'approche pas.
Ne vous approchez pas. Parce qu'en fait, c'est une substance qu'on étale sur la peau.
Qui passe à travers la peau, exactement.
Et donc, la notice de la testostérone, c'est dit, surtout, ne le mettez pas en contact avec des femmes, etc.
Exactement.
Bien sûr, ce n'est pas une certitude.
La question, c'est que... Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, l'énonciation est une des pratiques...
De rébellion ou de subversion.
Ça peut être une des pratiques, en fait, soit des auto-affirmations, soit des résistances, soit des luttes, des rébellions, une des pratiques. Mais il y a une multiplicité des pratiques. Donc, si vous me dites, il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas blanc, mais il est super blanc, et après, toutes ces pratiques sont des ultra-blancs, moi, je dis, écoute, ton énonciation, garde-la, parce que ça ne m'intéresse pas. Après, en fait, si effectivement, dans sa pratique, il y a un tel devenir noir dans sa pratique, ou une telle mise en cause, en fait, de la différence raciale, peut-être, justement, ça devient, justement, une technologie de soi, une technologie, une fabrication totale de sa subjectivité. Et il faut commencer à le faire.
Et donc, même chose pour le genre, en fait.
Absolument.
Un homme qui était identifié comme cisgenre, hétérosexuel, etc., dit, mais je veux me désidentifier. Je ne suis pas un homme.
Un homme dit, je ne suis pas un homme hétérosexuel, cisgenre, à partir de ce moment-là, ça met en jeu, pas simplement les lieux d'énonciation politique, mais par exemple, en fait, toutes ces pratiques des désirs et des relations. Parce que s'il n'est pas un homme, à ce moment-là, peut-être il est très ouvert aussi à coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas identifiés en tant qu'hommes, ou il ne va pas être dans un rapport, dans une chorégraphie sexuelle, hétérosexuelle, etc. Donc il y a un certain nombre de pratiques, des pratiques politiques, des techniques, des contre-fabrication des subjectivités qui vont venir avec. Après, si c'est simplement une énonciation...
Comme une posture, quoi. Comme un truc pour éviter d'être accusé. Aussi parce que c'est l'horreur. J'entends aussi les hommes qui, par exemple, écoutent l'émission, qui ensuite m'écrivent en me disant « Mais ça me fait horreur tout ce que vous décrivez. J'ai pas envie d'appartenir à cette classe-là, au sens de... »
Oui, très bien.
Classe de sexe et
commencer,
tout.
Ouais. Commencer un mouvement, mais un mouvement que ce soit pas simplement, en fait, une parole, donc une prise de position par l'énonciation, mais un ensemble des pratiques, des résistances et des identifications constantes. Évidemment, donc une déconstruction des rapports du pouvoir.
Paul B. Preciado, pour terminer, est-ce qu'il y a une œuvre artistique, ou pour le dire en vos termes, une fabrication historique de l'esprit? Parce que vous dites aussi dans vos textes qu'on peut tomber fou amoureux d'œuvres, en fait, de fabrication historique de l'esprit, et comme on peut tomber fou amoureux d'une ville, par exemple. Donc, quelle est cette fabrication historique de l'esprit que vous souhaitez recommander aux auditeurs?
Bon, il y en a tellement, mais parce qu'en fait, justement, parce que la culture queer, la culture lesbienne, trans, parfois, elle est très invisible socialement et politiquement. Néanmoins, en fait, elle a une grande capacité. C'est comme un monde de la fantaisie, en fait. C'est vraiment, ça existe parfois, qui est dans l'imagination, dans l'imaginaire. Moi, je sais pas. J'avais pensé en fait que je voudrais recommander effectivement les livres des Angela Davis, tous les livres d'Angela Davis, parce que pour moi, ils
sont. Vous l'avez eu comme prof en plus, non?
Je l'ai eu. Elle enseignait plutôt en Californie, alors que j'étais à New York, mais je suis allé souvent en fait à ses cours, à ses classes. En fait, et c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et je pense qu'elle a changé ma vie, comme Virginie Despentes a changé la vôtre, on va dire. Quelque chose comme ça. Mais elle est tellement nécessaire, la relire aujourd'hui, c'est tellement nécessaire. Mais après, sinon, je voulais peut-être recommander. Pour la plus jeune génération que peut-être a jamais vu ça, en fait, un film transpunk des années 90 qui s'appelait Dandy Dust de Hans Schreil. Dandy Dust. Et c'est extraordinaire. C'est en fait à peu près comment faire l'amour avec les objets, avec les meubles. Donc, sortir un peu, en fait, aussi des... Il faut arrêter, en fait, avec autant d'humanité. Voilà.
Merci infiniment, Paul Depreciado. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci à vous.
Bon, moi, je vous invite aussi à lire les livres de Paul Depreciado, et notamment ce recueil de chroniques, Un appartement sur Uranus, pour ses réflexions profondes et révolutionnaires, et notamment sur un thème qu'on n'a pas tellement développé ici, mais qui est très important, sur la façon dont nos États traitent ceux qu'il appelle les migrants. Les Couilles sur la table, c'est un podcast produit par Binge Audio. On en produit 25 autres sur plein de sujets différents et passionnants. Je vous conseille notamment Miroir Miroir sur les questions d'apparence, Kif Taras sur les questions raciales, et Programme B, notre programme d'actualité quotidien. Vous allez apprendre plein de choses. Pour nous écrire, l'adresse c'est toujours lescouillessurlatable@binge.audio. Je vous lis toujours avec attention, vos messages me font grand plaisir, et aussi tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup à Quentin Bresson pour la prise de son et à la réalisation. Merci à Camille Regage pour le travail d'édition et à David Garzon, le directeur de la rédaction. Ciao.
Binge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.